Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
La lecture suivante, donc, je vous propose au chapitre 13 de l'évangile de Luc. Et au verset 22, il y a un récit qui est un enseignement que Jésus va donner à ses auditeurs du moment, à ses disciples. Et nous allons justement, méditer sur ce texte. Alors, Luc, chapitre 13, verset 22. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le dis, beaucoup chercheront à y entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors, vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra, « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers et des premiers qui seront les derniers. Il y a une similitude avec un autre passage dans le Sermon sur la montagne, et nous le trouvons particulièrement dans l'évangile de Matthieu, quand il est question de la porte étroite, comme dans ce cas, mais également du chemin resserré et rétréci. Alors, l'idée est la même, mais nous avons sélectionné ce soir tout simplement parce qu'il y a des aspects de l'enseignement de Jésus qui sont tout à fait particuliers, qui nous sont laissés à travers ce récit qui a été tout simplement retenu par l'évangéliste Luc. Jésus est interpellé en cours de route et un homme, vraisemblablement, vient lui poser cette question, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Alors c'est vrai que c'était une interrogation qui dénotait probablement un certain intérêt du questionneur, de celui qui fait la demande, se demandant si véritablement, il y avait beaucoup de gens qui rentreraient ou qui iraient au ciel. Alors c'est vrai qu'elle est intéressante, cette question de cet homme. Maintenant, en ce qui le concerne, il y avait peut-être une chose à souligner, c'est que lui-même était-il véritablement, puisqu'il pose la question pour les autres, y a-t-il beaucoup de gens qui soient sauvés ? Quel sera le nombre? Dans le paradis de Dieu, y aura-t-il une foule ou n'y aura-t-il que quelques privilégiés? Mais ce qui est important, c'est que lui-même sait-il si oui ou non il est sauvé? Parce que c'est bien de s'intéresser aux autres et de se poser la question, mais un tel que je connais, celui-ci, celle-là, qu'est-ce qu'il en est de sa foi, de sa vie spirituelle? Alors c'est très intéressant, naturellement. Ça pourrait être un débat, une analyse, des statistiques, pourrait-on dire aujourd'hui. Mais ce qui est le plus important, c'est de savoir si nous-mêmes nous sommes sauvés. Et si nous avons véritablement la conviction et la certitude que nous sommes parmi ceux qui, hériteront le royaume de Dieu. Ceci dit, voilà cet homme donc qui vient avec naturellement sa question. Et vous remarquerez que cette question arrive comme quelque chose d'imprévu. Jésus est en chemin, il est accompagné certainement d'une foule, certainement de ses disciples. Et cette question qui a naturellement en quelque sorte ce côté d'imprévisible, d'imprévu, Eh bien, ébranle en quelque sorte, et surtout la réponse, en quelque sorte ébranle la sécurité des auditeurs par un sérieux avertissement qui va suivre. Parce que Jésus va mettre les choses au point. On n'est pas suivant de Jésus ou on n'est pas suiveur de Jésus comme ça. C'est pas parce que, eh bien, les choses pouvaient être certainement intéressantes ou spectaculaires de suivre Jésus parce qu'il faisait des miracles et puis il disait des choses que d'autres n'avaient jamais dit auparavant. Et puis, probablement, eh bien, cette petite troupe qui marchait, il y avait là une formidable unité, ça devait être certainement très intéressant d'aller d'une ville à une autre et puis de voir beaucoup de monde parce que quand Jésus se présentait, eh bien, il y avait beaucoup de gens qui étaient sur son passage et avec diverses motivations, naturellement. Alors, on s'aperçoit que ce que Jésus va répondre est propre à amener une sérieuse réflexion. Pourquoi je suis Jésus? Qu'est-ce qu'il y a au bout? Qu'est-ce qu'il y a finalement au terme, eh bien, de cette proposition? Et nous voyons que cet homme est animé par un désir de savoir. Voilà. Alors, il y a des gens qui s'en moquent. Jésus, la Bible, l'Évangile, ça les laisse tout à fait indifférents. Mais ce qui est à noter chez le personnage, c'est qu'il veut savoir. Comme dans d'autres situations qui nous sont rapportées dans l'Évangile de Jean, il nous est dit qu'il y avait des Grecs à Jérusalem, et eux, ils ont demandé, non pas seulement à savoir, mais à voir Jésus. Nous voudrions voir Jésus. Là, c'est une question pour, eh bien, de connaître ce qu'il peut en retourner de la vie future, dans la vie dans le ciel. Alors, est-ce que c'était une affaire de curiosité? Mais Jésus, vous avez remarqué, va répondre à la foule. C'est pas seulement à cet homme, parce que la réponse que Jésus va donner, c'est une réponse générale et collective. Alors, que cet homme, lui, sache ou non s'il est sauvé, il va pouvoir avoir la réponse d'ici quelques instants. Mais ça ne se limite pas à un homme. C'est une foule qui va avoir la réponse, parce que Jésus le dit, tout simplement. Il leur répondit. Et qu'est-ce que Jésus va répondre? Eh bien, il va dire simplement ces termes. « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, avec ce sérieux, que c'est lui qui parle, que c'est Jésus donc qui va donner la réponse. » Et il dit « Je vous le dis, beaucoup chercheront à y entrer et ne le pourront pas. » Alors, c'est aussi assez troublant d'entendre qu'on va, on peut, on cherche, mais qu'on ne peut pas. Et la question va être retournée dans un autre sens, parce que la première réaction que les hommes peuvent avoir, peut-être que les auditeurs du moment pouvaient avoir, alors pourquoi ne peut-on pas rentrer dans le royaume de Dieu? Et il vient tout de suite à notre esprit que, eh bien, c'est Dieu qui empêche. Parce qu'il y a toujours ce préjugé à l'encontre de Dieu que si on ne peut pas être béni, si on ne peut pas avoir eh bien cette entrée dans le royaume de Dieu, si on ne peut pas avoir ceci et cela dans les valeurs et dans les références spirituelles, c'est que c'est pas de la faute à l'homme. C'est pas de notre faute, c'est certainement la faute de Dieu. Et Jésus va bien dire et va bien marquer les choses pour que tout le monde comprenne. Vous avez remarqué avec moi, il nous est simplement présenté que le royaume de Dieu est représenté sous une forme un tant soit peu parabolique, de cette manière représentée par l'image d'une maison où beaucoup de gens désirent entrer pour assister à une fête. Parce que vous avez bien lu avec moi, il nous est dit que Jésus répondra, eh bien moi je vous le dis, qu'il en viendra de l'Orient, de l'Occident, et que du Nord et du Midi, ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et l'image de se mettre à table dans le royaume de Dieu, c'est quelque chose de très familier aux hommes, parce qu'on se met à table non pas pour se substanter comme il le faut quotidiennement, mais souvent c'est l'image d'une fête, l'image d'un festin. Et dans le ciel, et le ciel est souvent représenté dans les paraboles de Jésus, comme des noces, comme un festin, comme, eh bien là, un temps de réjouissance. Et c'est cette image qui est reprise dans cette parabole en quelque sorte. Et Jésus va bien signaler une chose, mais il y a une condition. Ce ne sont pas ceux qui savent seulement et qui n'en font rien, parce que bon, il peut y avoir, et je vous ai souligné tout à l'heure qu'il pouvait y avoir une manifestation de curiosité, mais En reprenant les choses dans le sens normal, Jésus va dire que ce ne sont que ceux qui savent faire des efforts qui rentreront dans le royaume de Dieu. Alors, on va s'expliquer sur le mot effort. Tout d'abord, on n'est pas sauvé par les bonnes œuvres. On n'est pas sauvé parce qu'on va se mortifier, parce qu'on va faire des prières, parce qu'on va faire ceci et cela, pour essayer de forcer la porte en disant, tu vois, Seigneur, je mérite. Ça ne marche pas. Mais une chose qui est certaine, quand Jésus parle de s'efforcer, il donne une notion d'humilité et de persévérance, de ténacité et de pugnacité. On n'a pas à essayer d'escalader pour monter au ciel, mais c'est simplement une question de ténacité, d'endurance, envers et contre nous, pour pouvoir, eh bien, finalement rentrer, et seulement par le seul fait de la foi. Et si je crois, je vais persévérer. Si je crois, je vais véritablement, devant la valeur de la proposition, qui est celle du salut, de rentrer dans le ciel, d'être sauvé, d'être pardonné, d'avoir la vie éternelle, parce que je pense que ça, c'est l'essentiel et le principal, c'est un véritable trésor, et quand on a un trésor à ses pieds qu'on ne peut pas encore atteindre, eh bien, on va faire tous ses efforts pour atteindre le temps nécessaire, jusqu'à ce que nous puissions, eh bien, rentrer dans cette dimension. Donc, le mot est forcé, vous l'avez bien compris, et Paul le dira dans Éphésiens, au chapitre 2, il dira, mais c'est par la foi que vous êtes sauvés, c'est une grâce. Surtout, ce n'est pas par vos œuvres. N'allez pas vous imaginer que vous êtes sauvés parce que vous avez fait des choses qui sont méritoires et qui vont attirer l'attention de Dieu et que, eh bien, somme toute, le Seigneur, voyant véritablement votre gentillesse, votre bonté et toutes ces choses, alors vous donnerez une petite place. C'est faux. Ça, c'est une théorie ou une théologie religieuse qui n'a rien à voir avec les principes mêmes de l'Évangile où on est sauvé par la foi, tout simplement. Donc, je le répète, ce ne sont que ceux qui ont ces qualités de persévérance et de foi et de croire qui nous attend que nous sommes attendus pour recevoir un trésor. Alors, on va pas rater l'occasion, hein. Ça c'est une chose. Alors, ils parviendront à y rentrer et on va le voir dans le développement. En d'autres termes, seuls ceux qui sont vraiment décidés. Parce que on est dans une situation, dans un monde aujourd'hui de consommation, on regarde, ça nous plaît, puis finalement s'il faut faire l'attente, s'il faut faire la queue pour obtenir, ben on va voir ailleurs. On passe très facilement d'une chose à une autre, mais c'est une décision que nous maintenons pour aller jusqu'au bout. Où Jésus nous dit que le simple désir, la curiosité peut-être, simplement, eh bien ne suffit pas, mais il faut une volonté renouvelée, intense et énergique. C'est ça l'expression ou l'explication de l'effort, de s'efforcer qui nous est donné. C'est ça vouloir. Vous savez que on se sent très souvent démuni, et c'est l'apôtre Paul qui dira cette parole que nous pouvons prendre pour nous. Et peut-être dans notre prière, quand nous sentons que nous ne sommes pas toujours suffisamment capables, ou que nous ne sommes pas suffisamment forts, on n'est pas capable, hein, mais si nous ne sommes pas suffisamment forts ou patients pour attendre, Paul dira, mais c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et si vous reprenez cette parole, eh bien moi je prie de cette manière, Seigneur, mets ton bon plaisir en moi pour que tu m'apprennes, eh bien ce que veut dire le vouloir et le faire. Alors à ce moment-là, les choses seront beaucoup plus faciles. Et même dans cette démarche, c'est encore Dieu qui va tout faire à ma place, quelque part. Mais je crois. Alors, la porte dans cette histoire est un passage. Je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le sermon sur la montagne, il nous est parlé d'un chemin resserré, un chemin qui est étroit, un chemin difficile. Et il s'explique ainsi, ou cette porte s'explique ainsi, de deux manières. Il y a deux voies qui s'ouvrent dans cette maison. Il y a d'abord, eh bien, la porte qui implique un abaissement pour suivre Jésus. Et on ne peut rentrer dans le royaume de Dieu que quand on s'abaisse. Ça, vous l'avez, eh bien, de multiples fois dans les évangiles. Celui qui s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaissera, eh bien, sera élevé. Les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. C'est toujours la même pensée, en quelque sorte, hein. Nous l'avons dans notre texte. Donc, il y a ce premier chemin, je l'accepte ou je ne l'accepte pas. Mais ce sera déterminant pour mon éternité et pour mon salut personnel. Ou alors, celle qui est empruntée, le chemin large et spacieux, ou la porte large, qui fait que On pourrait l'appeler la porte d'honneur. Humainement parlant, c'est une porte facile. C'est une porte à deux battants. C'est une porte qui est extrêmement large, la porte d'honneur, qui est beaucoup plus commode pour accéder à un endroit où nous nous dirigeons. Mais c'est beaucoup moins humiliant, donc, ce qui fait que à regarder d'un côté ou à regarder de l'autre, on prend souvent le plus facile. On prend le plus simple. Et c'est cette porte que nous appelons, que nous voyons très souvent dépeinte, mais d'une manière souvent caricaturale. Dans l'exemple que donnent ces hommes et ces femmes de la religion juive dans les évangiles, que sont les pharisiens à travers la propre justice, à travers tout simplement la suffisance, où on fait à ce moment-là les choses par nous-mêmes. Alors, on va aller un peu plus loin, c'était simplement un préambule. Jésus nous dira « Efforchez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à y rentrer et se bousculeront. » Ça, c'est un peu la vision du christianisme de multitude, non pas du christianisme de confessant, où là, vraiment, eh bien, celui qui entend l'appel de Dieu va passer par une véritable repentance, par une conversion à Jésus-Christ, par une nouvelle naissance. C'est la petite porte, ça. Mais par contre, la porte large et spacieuse, c'est celle qui est offerte par nombre de dénominations religieuses où on se dit, ben écoutez, on fait les choses pour vous, vous savez, il y a un clergé, il y a là tout un système religieux, alors vous nous faites confiance, on va faire les choses pour vous. Mais vous ne vous inquiétez pas, vous tracassez pas. Alors, beaucoup chercheront à y rentrer. Et c'est vrai que moi je veux bien croire qu'il y a dans l'aspiration de l'âme humaine un désir. Mais on n'y pense pas tous les jours, ou les hommes n'y pensent pas tous les jours. Quelquefois, quand ça va mal, on pense à Dieu, on se dit, mais il y a peut-être quelque chose. Quand on est frappé par un événement terrible, on se dit, ben oui, peut-être qu'il faut que je fasse quelque chose, que je me prépare à quelque chose. Alors ça, c'est la porte large. Et il nous est dit, donc, ils chercheront à y rentrer, mais ne le pourront pas. Parce que ils ne seront pas dans les conditions, ni de foi, ni dans les dispositions d'esprit, dans ce que il est nécessaire de faire, non pas pour satisfaire un devoir de conscience ou de religion, mais à satisfaire la volonté de Dieu. Et c'est ce qui vient, c'est la suite. Alors, puisque Jésus parle de cette porte qui est étroite, que beaucoup sont là pour prétendre finalement rentrer à l'intérieur de cette maison, mais il nous dit, mais quand le maître de la maison se sera levé et il aura fermé la porte, parce qu'un jour ou l'autre, le temps de la grâce prendra fin. Aujourd'hui, nous sommes dans une période depuis 2000 ans où nous pouvons dire, eh bien, que c'est encore la période où chaque homme, chaque femme a la possibilité de décider ou non de suivre Jésus, dans la mesure où il a entendu son appel qui se décline de mille et une manières. Il n'y a pas qu'une façon, faut pas croire. Enfin, faut y croire, mais je veux dire par là que il n'y a qu'une façon dans ce sens où c'est Jésus qui sauve et c'est par la foi qu'il nous sauve. Alors après, les formes, ça se décline d'une façon ou d'une autre. Voilà. Alors, quand le maître aura fermé la porte, et que vous, à ce moment-là, vous qui êtes à la porte, qui cherchez et qui voulez rentrer mais vous ne pouvez pas, alors vous serez dehors et vous commencerez à frapper à la porte en disant « Mais Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » C'est bien le problème. Et là, nous retournons dans le sermon sur la montagne où Jésus nous enseigne dans l'évangile de Matthieu. Eh bien, à peu près la même chose. Quand il est question, eh bien, justement, de dire « Seigneur, Seigneur !» Parce qu'on peut toujours dire « Seigneur, Seigneur !» Il y a des millions et des millions de gens, et peut-être même multipliés en milliards, d'une façon ou d'une autre, qui ont le nom du Seigneur dans la bouche. Quel que soit le Seigneur et le nom qu'il désigne. Mais Seigneur, et quand on reste dans le contexte du christianisme, c'est comme ça qu'on appelle le Seigneur. Jésus, c'est Seigneur. Dieu est Seigneur. Il est créateur, donc il est seigneur, il est maître, il est souverain. Alors, moi je veux bien croire qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent au moins ce mot. Mais l'employer, le dire, se servir de ce nom uniquement parce qu'il y a le feu à la maison, parce que nous avons des problèmes ou des difficultés, ce nom n'est pas en quelque sorte, eh bien là, un nom de sauvegarde. Si nous l'utilisons, c'est parce que véritablement, eh bien, le Seigneur est une réalité quotidienne de chaque instant, de tous les temps, pour celui qui a fait cette expérience avec Jésus. Et ça change tout, hein. Si c'est simplement dans un murmure de quelques paroles ou d'une récitation de prière, ça ne va pas très loin. C'est bien la différence entre ceux qui ont emprunté la porte étroite et qui connaissent ce nom, mais d'une manière intime, d'une manière expérimentale, qui a une valeur expérimentale, et puis les autres qui peuvent l'entendre, hein, qui connaissent ce que c'est que la Bible de la couverture, vous comprenez, hein, ou tout simplement par l'extérieur, hein, mais qui n'ont jamais fait d'expérience. Alors, à ce moment-là, il nous est dit qu'un jour, eh bien, les choses se refermeront. Elles peuvent se refermer sous deux sortes de formes, soit parce que nous allons partir de cette terre, et c'est là où il faut véritablement faire la paix avec Dieu, parce que soit nous rencontrerons le Seigneur, celui qui porte ce nom glorieux, soit comme notre Sauveur, Seigneur Sauveur, ou soit nous le rencontrerons comme notre juge. Et ça, c'est encore autre chose. C'est une tragédie. Alors, vous commencerez à frapper à la porte, et vous revendiquerez peut-être votre appartenance religieuse, ou votre théologie cultuelle, en disant, mais Seigneur, Seigneur, tu sais, ce nom, nous connaissons ton nom, mais ouvre-nous. Alors, qu'est-ce que Jésus dit? Eh bien, il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors, ça semble terrible. Parce que finalement, pour savoir qui est Jésus, il faut passer par les étapes dont je vous ai parlé tout à l'heure, sur lesquelles je ne reviens pas, parce qu'elles sont essentielles et primordiales. Mais pourtant, Dieu dira, mais je ne vous connais pas. Pourquoi Jésus dira « je ne vous connais pas » Parce que ces gens, tout en prétendant connaître le Seigneur, ne l'ont pas connu. Qu'est-ce que ça veut dire connaître? Dans le sens profond, biblique, le mot « connaître », c'est véritablement rentrer dans une intimité de la personne. C'est avoir ce contact qui est plus que « je connais pour avoir entendu parler », les « oui-dire », ou une vague éducation chrétienne ou autre. Connaître, c'est une intimité. C'est véritablement, eh bien, cette communion entre l'homme et Dieu. Et ça, ça veut dire connaître. Et ça, c'est vraiment connaître Dieu. Et Jésus dira, mais vous ne vous êtes même pas soucié d'en savoir plus. Et vous savez que nous vivons dans un temps où le monde est en train de se déchristianiser de plus en plus, à une vitesse effrayante. Mais il y aura des conséquences naturellement à cela. Alors vous vous mettrez à dire, à protester, à manifester, à montrer avant peut-être tout autre chose, eh bien que vous n'êtes pas d'accord parce que vous êtes illusionné que parce que vous avez été baptisé peut-être enfant, parce que vous avez suivi, eh bien, certains devoirs ponctuels de la religion qui était la vôtre, que vous vous êtes peut-être marié dans une église. Et puis bien des choses qui, dans votre calendrier de vie, vous ne l'avez jamais oublié, mais c'était des choses tellement événementielles et ponctuelles que le reste du temps, eh bien, tout ça avait disparu. Comme si finalement, eh bien, ça n'avait pas de valeur. Jésus n'avait pas la première valeur dans votre vie. Il n'avait pas la première place. C'est pour ça que vous ne l'avez pas connu. C'est pour ça que le Seigneur, mais lui, je ne vous connais pas. Puisque vous n'avez jamais cherché à aller plus loin que le minima. Alors, vous protesterez. Vous pourrez dire, mais moi j'avais une étiquette. Moi j'ai été élevé dans tel ou tel contexte qui se réclamait de la foi chrétienne. Mais est-ce la foi chrétienne ou est-ce une croyance chrétienne? C'est bien la différence. Et vous réclamerez dans votre désarroi, parce qu'il y a du désarroi. Dans cette écoute de cette parole, je ne vous connais pas. C'est terrible. Donc vous vous êtes fait des illusions. Vous avez pensé que, alors que c'est pas du tout ça. Et vous direz, mais nous avons mangé et nous avons bu avec toi. C'est l'image d'une communion, mais superficielle. Parce que la vraie communion, vous avez entendu parler de la Sainte Cène, hein? Ça, c'est une relation avec la mort de Christ, avec son corps, avec son sang qui nous donne la vie. Et je pense que c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important. Nous avons mangé et bu avec toi, et tu as enseigné dans nos rues. Alors où est cette communion? Et où, Qu'en est-il advenu de cet enseignement aussi? Donc ce sont des prétentions tout à fait humaines et religieuses, mais qui n'ont pas de fondement, qui sont qu'en superficialité, excusez-moi. Alors Jésus répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité, parce que la raison de tout cela, eh bien, c'est que, puisque vous avez prétendu être en communion avec moi, et que vous avez prétendu avoir été enseigné de mes paroles, qui vous conduisent tout simplement pour être sauvé, vous n'en avez rien fait. Et au contraire, au lieu de vous convertir, au lieu de changer de vie, eh bien, vous vous êtes livré tout simplement à l'iniquité. Qu'est-ce que c'est l'iniquité? C'est l'injustice. Vous avez pris plaisir au mal, et non pas à l'invitation de faire le bien, qui est au cœur même de mon enseignement. Et ça, c'est dramatique et c'est terrible. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Nous voyons que quand ces gens entendent Jésus parler, nous avons mangé et bu devant toi et enseigné dans nos rues, c'est une forme de réclamation. Ils se disent, mais c'est injuste. C'est pour ça que nous avons lu, mais ils ne pourront pas y rentrer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les conditions, ils ne sont pas dans les conditions morales pour y rentrer. Donc c'est une réclamation, ou voire même une objection, caractérisée, ou qui caractérise la tendance, tout simplement, à se reposer ou à faire reposer son salut sur nos avantages religieux extérieurs. C'est pas parce que de temps en temps on était à la messe ou on était au culte. Nous avons mangé et bu avec toi. Mais s'il n'en est rien ressorti de profond, de véritable, ça sert à quoi? Et même, nous avons, comme le dira, nous avons chassé les démons. Nous avons prophétisé en ton nom et ceci et cela, mais on peut tout dire et tout faire. Si le Seigneur est absent de tout cela, ça sert à quoi? C'est un drame. C'est pour ça que Jésus dira, mais ils seront beaucoup à la porte. Beaucoup de ce monde qui met plus sa confiance dans la religion que dans une réelle conversion. Dans une réelle expérience. Alors, on comprend que tout cela, eh bien, c'est difficile. Cette façade extérieure. Et c'est bien ce que Jésus a condamné chez les pharisiens. Il leur a dit, mais vous savez que les apparences, voilà, l'extérieur est propre, mais à l'intérieur, il est souillé à cause de votre hypocrisie, à cause de votre méchanceté, à cause de vos jugements impitoyables sur les autres et toutes sortes de choses. Alors on comprend que tout cela, eh bien, ça pose naturellement des problèmes. Jésus répond et met en opposition dans le texte que nous avons devant les yeux, eh bien, ces privilèges extérieurs à la condition morale d'une vie qui était changée et transformée. Voilà. C'est comme ça qu'on peut rentrer dans le royaume de Dieu. Alors il y a du travail hein, pour tout le monde. On n'y arrive pas du premier coup, mais le Seigneur est là pour nous aider. Et c'est ce qui est, en effet, eh bien, proposé dans cette réflexion. Ouvrier d'iniquité, nous dit le texte. Ouvrier d'iniquité, eh bien, parce que finalement, devant l'appel de Dieu, vous êtes resté indifférent, vous êtes resté sourd, et vous n'avez fait, alors là, à ce moment-là, aucun effort sérieux pour obtenir ce que Dieu vous a proposé. Parce que la conversion, c'est remettre notre vie entre les mains de Dieu et c'est l'effort que nous avons à faire. L'effort. En croyant, en s'appuyant sur sa grâce, en s'abandonnant totalement et complètement. Et vous savez que c'est plus difficile à s'abandonner entre les mains de Dieu que de faire les choses par nous-mêmes pour essayer de gagner son ciel. Et toutes les religions traditionnelles, historiques, ont complètement gommé cette nécessité de changement de vie, de nouvelle naissance, de renoncer à nous-mêmes, de se charger de notre croix, au profit, à travers des devoirs, à travers des satisfactions de conscience, à travers toutes sortes de choses qui demandent peut-être, eh bien, le don de nos personnes, de l'argent et tout ça pour essayer de gagner son ciel. C'est plus facile de faire comme ça que de dire, eh bien, Seigneur, je viens tel que je suis un pécheur, je suis là, eh bien, perdu, mais je me confie en toi. C'est l'effort qui vous est demandé. Renoncez à soi-même. Et c'est ce qui vient dit. Il dira, mes ouvriers d'iniquité. Parce que pour rentrer dans ce royaume, il faut la réconciliation avec Dieu. Et c'est Christ qui nous réconcilie avec notre Père Céleste. Il nous faut rentrer et accepter le pardon de Dieu, il faut le croire. C'est l'effort que nous avons à croire que nous sommes pardonnés si nous demandons pardon. Et puis ça suppose naturellement la transformation dont nous avons parlé tout à l'heure. Alors, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Voilà la situation. Il était question tout à l'heure qu'il frappe à la porte en grand nombre, qu'il ne pouvait pas en rentrer, que le maître s'est enlevé, il ferme la porte, ils sont dehors, mais là c'est jeté dehors. Même si vous forcez, on ne peut y rentrer qu'à la condition de croire et d'accepter Jésus comme son sauveur personnel. Tout simplement. Il n'y a pas d'autre moyen. Et c'est pour ça que Jésus parle de cette manière, parce que dans ce qu'il vient de dire, quand il est question de grincement de dents et de pleurs, et que finalement ceux qui sont dehors vont voir Abraham, parce que c'est une histoire juive, Isaac et Jacob, en quelque sorte, ça veut dire tout simplement que Jésus n'accepte pas cette reconnaissance tardive et intéressée des hommes. De vouloir prétexter que nous avons finalement mangé et bu à sa table. De prétexter que nous avons entendu son enseignement et que nous n'en avons rien fait. De prétester que nous sommes des fils d'Abraham, de Jacob, etc., etc., parce qu'ils sont les patriarches, eh bien, ça ne sert à rien. Ce sont des remords et des regrets qui n'ont aucune valeur. Parce que dans la Bible, il n'est jamais enseigné les regrets et les remords, il est enseigné une chose essentielle et primordiale, c'est la repentance. Et ça, ça change tout. La repentance véritable et sincère. Alors vous verrez. Vous les juifs, vous les croyants de tous les temps et qui portez le nom de chrétien ou de disciple de Jésus-Christ mais qui vous n'en avez rien fait, alors à ce moment-là vous verrez parce que c'est un autre décor de l'autre côté. Ceux que pour lesquels vous vous êtes réclamés, qu'ils s'appellent Abraham, qu'ils s'appellent un tel ou ceci et cela, qu'ils aient été peut-être même dans notre temps un grand prophète ou un grand conducteur, un grand pasteur ou un grand patriarche ou tout ce que vous voudrez, ça ne sert à rien, c'est pas eux qui sauvent. Qu'est-ce que vous avez fait de votre vie? Qu'est-ce que vous avez fait de ce que vous avez entendu? Alors vous serez jeté dehors, c'est-à-dire vous resterez à la porte, tout simplement. C'est pourquoi la patience divine a un terme. À un moment donné, il nous est dit que Dieu use de patience envers nous, afin que nous parvenions à la repentance. Mais à un moment donné, soit à la fin de notre propre vie, parce que ça sera le terme de notre existence, et il n'y aura plus de choix après, parce que nous disparaîtrons, ou alors lorsque Jésus reviendra, eh bien, on s'aperçoit qu'il faut régler le problème avant. Et il y aura à ce moment-là, arrivé au terme, d'une façon ou d'une autre, des gémissements qui expriment le désespoir et des grincements de dents qui expriment la rage. La rage parce que nous sommes passés à côté de quelque chose. Nous avons eu l'illusion à cause de notre religion, à cause de notre fréquentation accessoire ou événementielle, où nous avons, nous nous sommes souvenus que nous étions baptisés chrétiens, etc., etc., et que, finalement, ça ne rentrait pas en priorité dans notre vie parce que nous avions autre chose à faire. Beaucoup passeront à côté. C'est pour ça qu'il y aura de la rage. Vous savez, la rage, c'est de voir comme une forme de désespoir, de quelque chose de profondément, là, qui nous met dans une angoisse, en quelque sorte, et on se dit, mais j'aurais pu, mais je n'ai pas voulu. Parce que c'est ça, le problème, c'est qu'on sera en face, ce ne sera pas Dieu qui sera accusé à ce moment-là, ce sera nous. On pourra s'accuser que soi-même, quand il est dit que celui qui sera baptisé, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est pas le baptême qui nous sauve, mais c'est la foi. Et la foi nous conduit à l'obéissance du baptême. En tant qu'adulte, naturellement, parce que des enfants, vous pouvez toujours leur dire à 3 semaines s'ils peuvent croire en Jésus. Il faut déjà qu'ils soient déjà vraiment avancés, intellectuellement. Alors vous serez jeté dehors, naturellement. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, parce que ça ne sera pas seulement vos références, ou votre dénomination religieuse, que vous appeliez protestant, catholique, orthodoxe, juif, ceci et cela, je reste dans la grande famille chrétienne, de l'Orient, de l'Occident, du Nord, du Sud. Voilà, ils viendront et vous verrez que c'est universel le salut de Dieu. Parce qu'à cette porte, quand il nous est dit qu'il y en a beaucoup qui sont à la porte, il y en a qui vont rentrer naturellement, mais c'est ceux-là qui vont rentrer. Ceux qui viendront, inattendus. On pensait que finalement, ces gens-là, on n'avait jamais peut-être pris conscience qu'ils existaient. Mais ils étaient réellement vivants spirituellement. Alors ils se mettront à table, c'est pour ça que je vous ai parlé de fête tout à l'heure. Parce que dans les cieux, et le royaume de Dieu est toujours marqué, il est toujours présenté sous les auspices d'une fête, d'une noce, d'un festin. Et dans un festin, c'est là où les hommes se communient ensemble. C'est là où ils sont heureux. Vous savez, dans les meilleures fêtes, on chante, hein. C'est rien à voir avec un enterrement, hein. On est heureux de se retrouver ensemble. Mais alors, le royaume de Dieu, ce sera une joie ineffable, une joie éternelle et un bonheur. Parce que dans le livre du prophète Ésaïe, nous est parlé d'un festin pour toutes les nations avec des mets succulents. Alors, ce serait peut-être pas forcément, eh bien, une nourriture comme nous avons l'habitude. Mais tous les fruits de l'esprit, c'est ça ce qu'il y aura sur la table. L'amour, la joie, la paix, la bonté, la fidélité, la foi, si vous voulez, c'est ce que je viens de dire un instant. Hein, toutes ces choses, ben, ça sera sur la table en quelque sorte. Ce qui fait le bonheur du cœur de l'homme, ce à quoi l'homme aspire, malgré tous les efforts, et il rate souvent la porte, eh bien c'est ça justement, ce festin. Ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers qui seront les premiers. Ah, vous étiez les premiers pour rentrer, mais vous n'avez pas voulu satisfaire aux exigences qui vous étaient formulées. Eh bien, vous serez les derniers. Et puis, il y a ceux que vous n'avez jamais remarqués. Finalement, ils ont peut-être pris la dernière place, mais ils seront les premiers. Vous savez, ça va dans tous les sens de l'histoire. Hein. C'était vrai pour les Juifs par rapport au monde païen qui a reçu l'Évangile. Mais c'est vrai également pour notre pays. Hein. Quand on parle de la France, la fille aînée de l'Église, quand on était né, c'est qu'on est en premier. Hein. Droit d'aînesse sur le plan chrétien. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui reste du christianisme dans nos pays occidentaux? Eh bien, les premiers seront les derniers. Et puis les derniers, vous savez, ceux qui sont évangélisés là dans notre 21e siècle, qui s'en vont dans les tribus les plus reculées d'Asie, d'Afrique, et puis dans toutes sortes de pays qui sont dans ce monde, eh bien ces gens-là qui ont été dans l'obscurantisme, dans la magie, dans toutes sortes de choses, on leur parle de Jésus, et voilà qu'ils croient, et voilà qu'ils acceptent simplement du fond du cœur, eh bien l'appel de Jésus, la conversion, la repentance de leurs péchés, et ils sont transformés. Ce sont ceux-là qui sont les derniers et qui vont devenir les premiers. On va être doublés, hein. Ça, c'est quelque chose. Si on y réfléchit bien, eh bien, ça nous demande peut-être une réflexion de tout cela. Ouais. Je termine simplement avec cette conclusion. Jésus nous dit « Je suis la porte ». Voilà. C'est pas cette porte dont il était question, étroite ou large, le chemin rétréci ou le chemin large, d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Jésus nous dit, je suis la porte dans l'évangile de Jean chapitre 10. C'est moi qui suis la porte. Et pour entrer dans le royaume de Dieu, eh bien, il faut nécessairement passer par moi. Jésus n'est pas un portier, il n'est pas un groom pour faire rentrer les gens. Non, il est la porte, c'est quelque chose qui est une image, une porte. Nous, quand nous sommes rentrés dans ce lieu, eh bien, il y a plusieurs portes à franchir avant d'arriver là, dans cette salle principale. Et il a fallu pousser la porte et vous êtes déterminés. La plupart d'entre vous, observé, même si je vous tourne de dos, mais une chose qui est certaine, c'est que vous n'hésitez pas à chaque porte, vous rentrez, vous savez où vous allez. Parce que vous savez que là, vous allez vivre quelque chose, vous allez entendre quelque chose, vous n'avez pas hésité. Mais il y en a combien qui pousse la porte du bout des doigts, enfin, la porte du royaume de Dieu. J'y vais pas, j'hésite, et puis je fais demi-tour, je rentre chez moi et tout ça. Mais Jésus nous dit, moi je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, eh bien il nous est dit qu'il sera sauvé, il entrera, il sortira, et trouvera de la nourriture, puisqu'il est question de festin, il est question de table, il est question de manger et de boire avec lui. Tout ça nous montre, à l'évidence, toute la cohésion de l'Écriture sainte. Le royaume de Dieu, c'est une personne. Ça passe par une personne. Et Jésus nous le dira, puisque nous avons parlé de porte et de chemin. Jésus nous dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père qui est dans le royaume des cieux que par moi. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous donne sa grâce simplement ce soir. Alors nous allons prier. Et nous allons demander au Seigneur que dans cette petite réflexion ô combien solennelle et importante. Voilà. Y a-t-il beaucoup de gens qui soient sauvés? C'est pas de savoir s'il y en a 10 000, 100 000, des myriades et des myriades. C'est de savoir si moi, en ayant entendu la parole et en ayant reçu l'appel de Dieu, je suis parmi ceux-là et que je sois personnellement sauvé. Alors on va prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta bonté, ta fidélité. Nous voulons te bénir, Seigneur, parce que tes enseignements, Seigneur, sont tellement importants. Ce sont des enseignements de toujours, Seigneur. Ce sont des choses qui vont traverser les siècles. Tous les hommes de toutes les générations peuvent comprendre, en effet, ce que c'est qu'une porte, ce que c'est qu'une maison, que représente, en effet, Seigneur, une maison du bonheur, une maison de pardon, une maison de prière, une maison de salut, une maison, Seigneur, que nous ne quitterons pas, puisque c'est une maison éternelle. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier de nous avoir parlé ainsi, et de ce que, depuis 21 siècles, cette même parole, sous forme de parabole ou autre chose, eh bien, est restée, Seigneur, un appel de Dieu et un avertissement. Seigneur, cet avertissement, il n'est pas fait pour condamner. Il est fait particulièrement pour que nous puissions en prendre conscience qu'il y a un danger, qu'il y a une menace, et qu'ainsi, Seigneur, nous puissions vraiment, Père éternel, frapper à la porte, en sachant, Seigneur, que pour entrer, il nous faut nous repentir de nos péchés. Il nous faut nous convertir à Jésus-Christ, que Jésus devienne Seigneur et Sauveur de notre vie. Il nous faut naître de nouveau, et ça c'est ton œuvre, une transformation. Et nous te bénissons et nous te rendons grâce. Oui, Seigneur, je te demande de visiter chacun et chacune. Ceux qui écoutent ta parole, ceux qui l'écoutent et qui la retiennent, ceux qui l'entendent et la reçoivent, ceux qui l'écoutent et l'entendent et la croient surtout. Alors qu'il en soit ainsi, bénis les auditeurs de ta parole. Donne-leur, Seigneur, par l'action de ton Saint-Esprit en cet instant, de réaliser, de comprendre qu'en effet, Seigneur, notre part, c'est de nous efforcer à, non pas à essayer de gravir les échelons pour rentrer dans le royaume de Dieu, aller au ciel, par nos propres efforts, par nos propres mérites, parce que nous n'avons aucun mérite et aucune qualité, nous sommes perdus, et toi tu veux nous sauver. Mais Seigneur, ce que nous avons besoin de comprendre, c'est qu'il nous faille les uns et les autres nous humilier devant toi, te demander pardon de nos péchés, de nos fautes, d'une vie d'errance, d'une vie inutile, d'une vie qui n'a pas eu de sens, qui n'a pas de sens, mais qui peut avoir aujourd'hui en cet instant une signification éternelle, en acceptant Jésus. Oui Seigneur, nous voulons te demander, Père éternel, que ton esprit travaille, vraiment, profondément, maintenant, Seigneur, pour tous ceux qui entendent ta parole, et puissent dans l'affirmative, eh bien, te dire, oui, Seigneur, sauve-moi, Jésus. Pardonne-moi de ma vie, de mes péchés. Donne-moi, Seigneur, de croire que la vie éternelle m'est donnée maintenant. Elle m'est acquise à la croix du calvaire, parce que c'est toi qui es mort, en lieu et place pour moi. Merci, Jésus. Tu bénis et tu sauves. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.